Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 10 août avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure. Au sommaire, le journal, les sports, le journal de la semaine en France. On parlera aussi des 76e anniversaire des bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce mardi, la Nouvelle-Galles du Sud enregistre 356 cas locaux de Covid-19. Le recensement national de ce soir donne à 25 millions de personnes en Australie une chance de façonner leur avenir. Et puis la Therapeutic Goods Administration en Australie donne un feu vert provisoire pour l'utilisation du vaccin Moderna contre le Covid-19. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 356 cas locaux de Covid-19 ce mardi, dont 57 cas infectieux dans la communauté. Il y a également 3 décès depuis 20 heures hier soir. La dirigeante de l'État, Gladys Berejiklian, a déclaré que Canterbury-Bankstown reste la zone centrale où les cas de coronavirus augmentent. Madame Berejiklian déclare que la vaccination est l'outil clé pour réduire la propagation du virus.
It's always so sad when you hear about deaths, especially of elderly people who unfortunately, for whatever reason, weren't vaccinated, because that is proving to be an ongoing challenge. Those who have had 2 doses of a vaccination have so far avoided any ICU, any mortality, but unfortunately those that are unvaccinated of any age, continue to be vulnerable.
Des cas positifs ont été détectés dans 4 écoles de Nouvelle-Galles du Sud et l'école publique de Bondi Beach est enfermée aujourd'hui, ce mardi, pour le nettoyage et la recherche des contacts. Certaines parties du nord de Nouvelle-Galles du Sud sont entrées dans un verrouillage instantané d'une semaine après qu'un homme infecté par le Covid-19 ait visité la région. Le Byron Shire, Richmond Valley, Lismore et Ballina Shire sont maintenant en lockdown pour au moins une semaine. Le maire de Byron Shire, Michael Lyon, a déclaré qu'un homme infecté avait enfreint les règles de rester à la maison à Sydney et s'était rendu à Byron Bay, laissant sa femme à l'hôpital infectée par le Covid-19.
So he was traveling, I believe, with a 19-year-old and 15-year-old. He's got a son and a daughter. Yeah, what they're having trouble with is getting information out of them about where they've been. No QR codes are being used, so you know, I understand they may have been looking at properties all around the different shires. We've got 4 LGAs now in lockdown through this guy's actions.
Et Tamworth est aussi en lockdown pour une semaine après la visite d'une femme infectée du Covid-19. Les services de lutte contre la violence conjugale dans toute la Nouvelle-Galles du Sud ont du mal à répondre à la demande accrue pendant le verrouillage, alors que les liste d'attente s'allonge et que le financement diminue pour les services en question. Le Victoria a enregistré 20 nouveaux cas de coronavirus acquis localement alors que le verrouillage se termine pour les régions rurales. Tous les nouveaux cas sont liés à des foyers connus tandis que 5 cas étaient en quarantaine pendant leur période infectieuse. Le ministre de la Santé du Victoria, Martin Foley, a tenu à renforcer l'efficacité du vaccin AstraZeneca.
I got AstraZeneca, the chief health officer got AstraZeneca, Jerome has had AstraZeneca, it's safe, it's available and it's effective. And we all did it, all Victorians who have been vaccinated have done it to protect themselves, to protect our families and to protect the communities that we're a part of. And we look forward to the hundreds of thousands of people in the coming weeks doing the same thing.
Les habitants des régions rurales du Victoria peuvent se réunir en public à l'extérieur par groupe de 10 personnes, mais les rassemblements privés ne sont pas autorisés et le port du masque reste obligatoire à l'intérieur comme à l'extérieur. Les gens ne peuvent se rendre à Melbourne que pour des raisons essentielles et les entreprises dans les régions rurales comme les services de vente au détail et de beauté peuvent rouvrir cette semaine. Le commandant de la police du Victoria, Deb Robertson, a déclaré que 200 policiers patrouilleraient les zones périphériques de la ville de Melbourne pour faire respecter les règles sanitaires et s'assurer que personne n'enfreint les règles.
Our focus is to ensure that people from Melbourne do not travel into regional Victoria unless they have an exemption to do so. Our patrols will be roving.
Trois nouveaux cas locaux ont été signalés dans le Queensland sans aucun cas infectieux au sein de la communauté et détectés en quarantaine à domicile. Tous les cas sont liés au cluster de Indooroopilly. 13 272 personnes sont en quarantaine à domicile dans tout le Queensland et plus de 11 000 vaccins ont été administrés au cours des dernières 24 heures. La dirigeante de l'État, Anastasia Palaszczuk, est satisfaite du résultat et déclare que les inscriptions sont désormais prises pour les personnes âgées de 16 à 59 ans pour le centre de vaccination.
We've had 50,000 registrations already to date, so well done. But we want to have even more registrations, remembering that the Commonwealth is responsible for 70% of the vaccinations in Queensland, and we are responsible for 30%. But it's wonderful to see that massive take-up of our registration. So that's excellent, excellent news.
Et il n'y a pas non plus de nouveaux cas de COVID-19 à Cairns et Yarba. La Therapeutic Goods Administration en Australie donne un feu vert provisoire pour l'utilisation du vaccin Moderna contre le COVID-19. Le gouvernement a obtenu 25 millions de doses et il s'attend à ce que 10 millions de vaccins Moderna arrivent dans le pays avant la fin de 2021. Cette catégorie de vaccins sera bientôt disponible avec les vaccins Pfizer et AstraZeneca déjà proposés en Australie. Écoutez le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt.
Another highly safe, highly effective vaccine will help ensure that every Australian who seeks to be vaccinated this year can be vaccinated this year. But we're seeing those numbers, as I say, accelerate with over 200,000 a day on weekdays, in the last week, the equivalent of the population of Adelaide, or almost the equivalent. And so Australians are really stepping forward.
Et le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que le plan visant à faire vacciner 70% des Australiens avant la fin de l'année reste toujours l'objectif.
What they give the stamp to, what they put their support for in the approvals they give means that you can get those jabs, whether they're for your children on immunisation or indeed for the COVID-19 pandemic. We'll have it in our hands and we'll have the jabs in our arms starting next month. This is our plan to ensure that we get Australia to where we need to get to this year. We have more Pfizer, we have more AstraZeneca, and now we have Moderna.
Le recensement 2021 aura lieu ce mardi soir. Il a lieu tous les 5 ans. Environ 2,5 millions d'Australiens ont déjà rempli les formulaires. L'enquête nationale donne à 10 millions de ménages et 25 millions de personnes une chance de façonner leur avenir. Les Australiens qui n'ont pas encore terminé le recensement en ligne peuvent le faire jusqu'à ce jeudi 12 août en utilisant les coordonnées fournies dans la boîte aux lettres de chaque ménage. Pour ceux qui ne peuvent pas utiliser le formulaire en ligne, il existe un service 24 heures sur 24 au 1800 130 250 où un formulaire papier peut être demandé. Le sixième rapport du groupe de l'ONU, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, sur le climat donc, a trouvé que si la planète ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre, les événements dus à la météo seront plus intenses. Écoutez Manning Chen, l'un des co-auteurs du rapport.
Depuis les années 50, les records de chaleur, incluant les vagues de chaleur, sont devenus plus fréquents et plus intenses, de même que tous les événements climatiques extrêmes. Nous observons une augmentation des sécheresses dans certaines régions du monde. Ses conséquences sur les températures, les précipitations touchent toute notre planète. Pas seulement les humains, mais aussi la flore, la faune, l'élevage et l'agriculture. L'accumulation des grosses chaleurs, de sécheresses et de conditions venteuses, cela conduit à de grands incendies de plus en plus fréquents partout dans le monde. Des changements multiples se produisent dans les océans qui se réchauffent, s'acidifient et perdent en oxygène. Cela affecte la vie marine et la vie de ceux qui en dépendent.
Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis s'est excusé pour ce qu'il a qualifié de faiblesse dans la réponse à l'incendie dévastateur qui brûle depuis une semaine sur l'île de Bé. L'incendie est le plus grave des centaines qui ont brûlé en Grèce au cours de sa pire vague de chaleur en 3 décennies où la température a atteint 45 degrés. Reportage de Nicolas Roca pour RFI sur l'île de Bé, très impactée par les flammes.
Les flammes se rapprochent du village de Vasilika et de ses 600 habitants. Face aux arbres qui brûlent en bord de route, Halalabos a l'air exténué. Depuis 6 jours, son île flambe.
Je ressens beaucoup de chagrin, mais principalement de la colère contre le gouvernement qui nous a abandonnés. La société, toute la Grèce nous a abandonnés. On est désolé d'avoir interrompu les vacances de notre Premier ministre qui doit s'occuper des incendies.
Au cœur du village, les pompiers rechargent leurs camions en eau. Les habitants les imitent avec des camions agricoles. Assis sur une chaise de jardin, Dimitris Labianis est aussi fatigué physiquement que psychologiquement. Lui aussi, dans ses mots, revient le sentiment d'abandon.
Je suis très inquiet, j'ai de la colère, beaucoup, du gouvernement. On n'attend absolument rien. Il nous a totalement abandonnés. Les habitants du village, nous sommes là. Et depuis 4 jours, c'est nous qui essayons d'éteindre les feux. C'est nous qui allons dans le bois, dans des endroits dangereux, pour éteindre des incendies, pour éviter que le village et les alentours ne brûlent.
Ce dimanche, dans un village 20 km plus au nord, les derniers habitants restés pour sauver leur maison ont été évacués de force face à l'avancée des flammes.
Une femme qui a déposé une plainte pour agression sexuelle contre le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a parlé publiquement de ses allégations. Brittany Comiso travaillait comme assistante du gouverneur et allègue qu'il l'a agressée alors qu'ils étaient seuls dans une pièce de la maison du gouverneur. Les allégations de cette personne de 32 ans ont été élaboré dans un rapport du procureur général de New York qui a révélé que le gouverneur Cuomo aurait harcelé sexuellement 11 femmes. Andrew Cuomo, 63 ans, nie toutes les allégations. Brittany Comiso a déclaré sur CBS qu'Andrew Cuomo devrait être tenu responsable.
What he did to me was a crime. He broke the law. I believe that he groped me, he touched me, not only once, but twice. They started to be hugs with kisses on the cheek, and then there was at one point a hug, and then when he went to go kiss me on the cheek, he quickly turned his head and he kissed me on the lips.
En Afrique, au nord du Mali, une attaque djihadiste et plus de 50 civils tués dimanche. C'est un bilan provisoire. Le point avec Serge Daniel pour RFI.
Les attaques ont eu lieu dimanche dans les localités maliennes de Karou, Ouattagouna, Dirga et Deoutéguef. Toutes sont situées sur un axe qui mène dans le nord à la frontière nigérienne. Les assaillants sont qualifiés de djihadistes, armés, circulant à moto, d'autres à pied. Ils ont sillonné les 4 villages et s'en sont pris aux populations civiles. Dans cette zone, c'est généralement l'État islamique au Grand Sahara qui mène les opérations. Parmi les victimes morts et blessés, les femmes et les enfants sont les plus nombreux. Un élu local interrogé par RFI donne une précision. Dans l'un des villages attaqués, un enseignant et tous les membres de sa famille ont été tués. Pourquoi ces attaques meurtrières? Une autre source affirme que les populations locales sont accusées par les mêmes djihadistes d'avoir fourni à l'armée malienne des informations précieuses. Récemment, l'armée malienne a mené dans le secteur des opérations de sécurisation des biens et des personnes. Et ce lundi, des témoins rapportent, de nombreux militaires maliens ont été dépêchés sur le terrain. On devrait avoir plus de détails sur cette attaque, l'une des plus meurtrières des derniers mois dans cette partie du Mali.
Et pour terminer ce journal, en Australie, le joueur de l'AFL, Taylor Walker, s'est excusé pour une remarque raciste qu'il a faite à propos du joueur de North Adelaide, Robbie Young, dans un message vidéo mettant en vedette les deux joueurs. Walker s'est excusé auprès de tous les aborigènes et des personnes du détroit de Torres pour ses commentaires. Il a admis avoir perdu la confiance et le respect des autres et a été condamné à une amende de 20 000 $ pour l'incident. On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 15 degrés, Adélaïde 20, Melbourne 18, Hobart 17, Canberra 16, Sydney 22, Brisbane 21, Cairns 26, Darwin 33 et à Alice Springs maximale de 28 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi, la Nouvelle-Galles du Sud enregistre 356 cas locaux de COVID-19. Et puis le recensement national de ce soir donne à 25 millions de personnes en Australie une chance de façonner leur avenir. Fin du journal et merci de rester avec nous.
La Nouvelle-Galles du Sud est en état d'alerte élevée pour le coronavirus. Si vous habitez dans les régions du Grand Sydney, de Newcastle, de Hunter, d'Armidale, de Tamworth ou de Northern Rivers, vous devez rester à la maison, sauf s'il est absolument essentiel de partir et vous ne devez pas recevoir de visiteurs chez vous. Cela inclut tous les membres de la famille qui ne vivent pas avec vous. Les entreprises non essentielles sont tenues de fermer au public et de ne fonctionner qu'en ligne, par téléphone ou par click and collect si elles le peuvent. Elle qui vit dans les zones d'administration locales de Fairfield, Canterbury-Bankstown, Liverpool, Cumberland, Blacktown, Parramatta, Campbelltown ou Georges River et dans certaines banlieues de Penrith. Si vous habitez dans l'une de ces zones, vous ne pouvez pas quitter votre zone d'administration locale pour aller travailler, à moins d'être un travailleur autorisé. Pour les dernières informations, visitez nsw.gov.au.
Journal des sports pour aujourd'hui. On commence bien entendu avec les Jeux Olympiques qui se sont terminés à Tokyo ce week-end. 16 jours de sport intense et une belle moisson de médailles pour les Français. Retour sur les faits marquants de ces Jeux Olympiques avec Eric Mamrut.
Avec 113 médailles, dont 39 du plus beau métal, les États-Unis sont les grands gagnants de ces Jeux de Tokyo. À lui tout seul, le nageur américain Caleb Dressel en a rapporté 5 en or. C'est lui la grande star des Jeux. La reine et la sprinteuse jamaïcaine Helen Thompson avec le triplé 100, 200, 4x100 sur une piste d'athlétisme au record. Celui spectaculaire notamment du 400 mètres pulvérisé par le Norvégien Karsten Warholm. À la surprise générale, l'Italien Marcel Jacobs est devenu le successeur du Bolt sur 100 mètres. L'athlétisme transalpin étonnant à Tokyo avec 5 titres décrochés. Quant à l'américaine Allison Felix, elle est désormais l'athlète féminine la plus médaillée de l'histoire avec 11 récompenses en 5 participations. Mention spéciale encore au sport collectif français avec les deux sacres du handball, celui du volleyball et du judo par équipe avec Teddy Riner. Côté flop, la star japonaise Naomi Osaka a raté ses jeux pendant que Novak Djokovic passait à côté du grand chelem doré. Mais le plus gros échec qui est venue de l'américaine Simone Biles. Au lieu de la razzia dorée attendue, la star de la gymnastique, perturbée mentalement, a dû se contenter d'une seule médaille de bronze en individuel.
Eric Mamrut, donc pour RFI. Allez, on fait le bilan total de ces Jeux Olympiques pour les Français avec Marie-Amélie Motte. suite.
Les tricolores repartent du Japon avec 33 médailles, 10 en or et une 8e place au classement. 10 titres, c'est le même bilan qu'à Rio, mais le total de breloques est en revanche moins brillant qu'en 2016. La France est en recul avec 9 médailles de moins qu'au Brésil, bien en dessous des attentes fixées à 40 podiums. Alors les disciplines décevantes, la natation, le cyclisme et surtout l'athlétisme avec une seule médaille. Afin de faire beaucoup mieux à Paris, la ministre des Sports a exposé quelques pistes de travail hier à Tokyo. On écoute Roxana Maracineanu à nous.
Il y a un retour d'expérience peut-être nouveau, inédit, à faire avec les athlètes pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui pour monter sur la plus haute marge du podium ou pour monter sur un podium lorsqu'ils sont entre la 4e et la 10e place. Beaucoup de blessures encore pendant ces Jeux Olympiques. Je pense à Renaud Lavillény, Kevin Mayer, qui pose, je pense, la nécessité du suivi médical, de la préparation, un programme pour les entraîneurs aussi, pour qu'on puisse les faire plus travailler, discuter en transversalité entre les disciplines. Il y a vraiment un enjeu d'ouvrir les sports les uns aux autres et également vers l'extérieur et pourquoi pas aussi vers l'étranger, parce que moi je suis persuadée que les sports collectifs qui ont réussi, c'est aussi parce que ils se basent sur des clubs professionnels dont les joueurs évoluent à l'étranger et qui connaissent mieux leurs adversaires. Historiquement, c'est aussi ces confrontations qui manquent à nos sportifs français.
On va continuer bien sûr ce bilan du sport français et surtout des Jeux Olympiques. Retour sur la superbe victoire en handball des Françaises. On écoute la réaction de Béatrice Edwige, elle est pivot des Bleus.
J'ai vraiment l'impression que cette médaille, c'est vraiment notre médaille. Au staff, mais je mettrai un gros gros plus aux joueuses. Parce qu'on s'est clairement investi à 2000%. On a travaillé, mais comme des forcenés. À décrypter des jeux, à décrypter les enclenchements, à décrypter les joueuses. On a fait des réunions qui ont duré 1h30, 1h50. Et c'était assez indigeste. Je dis pas que c'était épouvantable à faire, mais ça a été dur. J'ai pas beaucoup dormi. Parce que forcément, quand on a le rôle que j'ai dans cette équipe, c'est-à-dire s'occuper du système défensif, on sait à quel point c'est quelque chose qui est très important en équipe de France. Et ça a été dur. Et je suis contente pour moi, je suis contente pour les filles, je suis contente pour nos familles, je suis contente pour mon compagnon, je suis contente pour tous les gens qui nous suivent. Et vous êtes là du premier match jusqu'au dernier, que ça se passe bien, que ça se passe pas bien. Et cette médaille, souvent, on dit souvent que c'est la nôtre, mais c'est aussi la vôtre parce que, sans tous ces gens, c'est celle de tous les fans de hand, tous les fans de hand qui nous soutiennent depuis le début. Et vraiment, cette médaille, on leur dédie du fond du cœur. Vraiment, vraiment.
Alors les Jeux de Tokyo, c'est fini, ça ouvre la porte aux Jeux de Paris, Paris 2024, prochaine étape de l'olympisme donc, et lors du passage de pouvoir, lors du passage de drapeau, lors de la présentation et la cérémonie de clôture à Tokyo, eh bien les fans parisiens étaient présents au pied de la Tour Eiffel, Marie de la Moissonnière.
Le clapping est un peu hésitant au début, mais les réflexes des supporters reviennent vite. Christian, commercial de 24 ans, ressent...
Plein d'émotions et beaucoup de joie, surtout en cette période compliquée avec le Covid. De revoir cet esprit un peu de foule, cet esprit de groupe qui vibre un peu à l'unisson grâce au sport, c'est assez impressionnant. Et bien sûr, ça fait du bien voilà, de pouvoir tous se retrouver et de célébrer quelque chose ensemble. Donc, franchement, ouais, ça fait du bien.
Une joie d'autant plus grande que des médaillés olympiques sont là, des athlètes qui sont un exemple à suivre pour Frédéric venu avec ses deux enfants.
Pour moi, c'est les valeurs, le sport, et puis je trouve qu'ils représentent la France et c'est un esprit, l'esprit d'équipe avec les succès qu'ont eu les équipes là hier et aujourd'hui. Je trouve que c'est assez fantastique pour les enfants de leur inculquer ce type de valeurs.
Gros succès aussi pour Thomas Pesquet qui depuis l'espace joue quelques notes de la Marseillaise et pour la patrouille de France, Adrien, lycéen de 15 ans.
Franchement, c'était une super cérémonie, surtout la patrouille de France qui est passée vraiment très très près. Surtout la dernière fois où après ça a fait un arc-en-ciel, c'était magnifique, inoubliable.
Les images de la cérémonie parisienne sont également diffusées à Tokyo, histoire de dire au monde entier que Paris et les supporters français sont prêts à accueillir les JO.
Voilà donc ce que l'on pouvait dire pour les Jeux Olympiques. Avant de conclure ce journal des sports, petit détour par la Ligue 1. Et oui, le football a repris en France. Et on fait le point avec Thomas de Saint-Léger.
Nouvelle saison de football en Ligue 1 en attendant la probable arrivée
de Lionel Messi au PSG. La première journée s'est achevée hier sur la victoire de Marseille à Montpellier 3-2. Lille, le tenant du titre, a été tenu en échec à Metz 3-0. A signalé également de nombreux buteurs africains. Ismaël Traoré, l'Ivoirien, et Stéphane Bauken, le Camerounais, ont permis à Angers de gagner 2-0 à Strasbourg. 2-0 aussi pour le promu Clermont à Bordeaux avec un but de Mohamed Bayo, le Guinéen, et un autre du Béninois Jodel Dossou, deux débutants en Ligue 1. Premier match, premier but aussi pour la recrue ghanéenne de Rennes, Kamaldine Souleymana. Mais les Bretons ont fait match nul un partout avec Lens.
Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Et comme chaque mardi, place à l'actualité française. Et pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour Émile.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors focus aujourd'hui eh bien, sur le défi énergétique de la France et les éoliennes eh bien, qui commencent à être remises en question.
Oui, c'est une question qui risque de se retrouver au centre des débats de la future élection présidentielle, hein, celle de l'an prochain, avril 2022. Nous allons le voir, il y a plusieurs niveaux de lecture quand on parle du défi énergétique de la France. Comment assurer l'approvisionnement en électricité du territoire pour les particuliers, pour les entreprises, tout en diminuant, bien entendu, les émissions de CO2, de gaz à effet de serre. Sur quelles sources d'énergie s'appuyer? Le nucléaire, le solaire, l'éolien, mais dans quelle proportion? Le débat, il s'est déjà invité dans la campagne électorale, la dernière, celle des élections régionales du mois de juin, car là où il y a quelques années encore, tout le monde louer les éoliennes, la force du vent hein, qui allait permettre de produire quantité d'énergie, eh bien la tendance est en train de se retourner avec une focalisation polémique sur ces éoliennes qui ne font plus du tout l'unanimité. Le sujet, il est devenu hautement politique. Xavier Bertrand, qui en juin dernier a été réélu à la tête des Hauts-de-France, la grande région du nord de l'Hexagone, Xavier Bertrand, candidat de droite, déclaré et déjà en campagne en vue de 2022, il a été le plus clair sur le sujet des éoliennes, relayant le ressenti d'une part croissante de la population, ceux et celles qui vivent à côté de ces fameuses éoliennes. Xavier Bertrand, il a fustigé, je cite, un scandale national, ce qu'il considère être un développement anarchique au détriment des populations. Laurent Wauquiez, lui aussi étiqueté à droite, est réélu à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a pris la même tonalité en mettant en avant tous les désagréments induits par l'installation de ces éoliennes gigantesques. Hein. Elles arrivent jusqu'à 100 mètres de haut avec des pales géantes qui vont brasser l'air, brasser le vent. Vous avez des régions françaises, essentiellement dans le nord et dans l'est du pays, où ces éoliennes, eh bien, elles tapissent par dizaines et dizaines les collines, le paysage. Et au départ, quand il était question bien de rattraper l'Allemagne, rattraper le temps perdu en matière d'énergie dite verte, non polluante, tout le monde a trouvé que c'était une très bonne idée, ces éoliennes. Il y avait même un effet d'attraction quand vous en aperceviez quelques-unes au détour d'un paysage, sur l'autoroute, dans votre voiture, ou bien au détour d'une balade en forêt. Mais là, le sujet est vraiment devenu aujourd'hui polémique. Une éolienne déjà coûte extrêmement cher à l'installation. Hein. Ce sont des milliards et milliards qui ont été débloqués ces dernières années pour installer les différents parcs. Et tous ces composants ne sont pas recyclables. Le rendement, production d'énergie, eh bien, il dépend du vent. Il est donc aléatoire, mais surtout la nuisance pour ceux qui habitent à proximité, elle est très importante. Nuisance visuel, avec des paysages dénaturés. Vous n'allez plus aller vous promener au pied des éoliennes. Nuisance sonore, une éolienne fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et les populations vivant à proximité de parcs éoliens, eh bien, ils ont vu la valeur de leur maison, de leur bien immobilier chuter de façon vertigineuse. Nous n'avons dit, le débat, il est devenu politique. Les opposants au président de la République, Emmanuel Macron, ils se sont emparés de ce sujet. Alors, du côté de l'extrême droite, du Rassemblement National, on demande d'ores et déjà un moratoire sur l'installation des éoliennes en Île-de-France. Et Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National pour 2022, elle dénonce, au nom de la défense des paysages et de la ruralité, ce qu'elle appelle une installation massive qui va inexorablement changer le visage des territoires.
Alors, dans ce procès qui est fait aux éoliennes, quelle est la position de l'exécutif et du président de la République ?
Eh bien, le chef de l'État, il a bien compris le danger de ce débat qui s'est installé et l'instrumentalisation qui en est faite par ses opposants, surtout, on l'a vu, opposants de droite et d'extrême droite. Il a bien compris, Emmanuel Macron, que le malaise était réel, il a senti le danger, il a répondu aux interrogations. Il y a 15 jours, lorsqu'il était entre guillemets au bout du monde, dans le Pacifique, voyage officiel en Polynésie française. Lors de ce déplacement, Emmanuel Macron, pour bien resituer les choses, eh bien, il a dû jouer les équilibristes, car il a dû tout d'abord, en parlant du nucléaire, parler de la dette qu'a la France envers les populations polynésienne, ces essais nucléaires que l'armée française a réalisés dans le Pacifique durant 30 ans jusqu'à la fin des années 90, jusqu'à la présidence de Jacques Chirac, avec les conséquences néfastes que cela a engendré, la faune, les océans, les fonds marins détruits, exposés aux radiations nucléaires, bien entendu, mais aussi des conséquences à long terme sur les populations environnantes, les maladies, les cancers à retardement, tout ce sur quoi la France a fermé les yeux pendant des décennies pour mener à bien ses essais nucléaires. Emmanuel Macron est un fervent défenseur du nucléaire civil pour produire de l'électricité, mais en Polynésie, eh bien, il a bien dû reconnaître les faits, l'utilisation militaire qui en a été faite par la France. Il a promis donc d'accélérer les processus d'indemnisation pour les populations de Polynésie. Mais, et c'est là que tout se rejoint, il n'a pas fermé la porte donc au nucléaire, aux centrales nucléaires qui aujourd'hui encore en France assurent 70% de la production d'énergie. Les essais nucléaires dans le Pacifique, ils ont permis de vérifier que la France maîtrisait la bombe atomique. On parle là de l'utilisation militaire, on se projette en vue d'une guerre éventuelle. Mais le nucléaire, il a aussi une partie civile. L'uranium vous permet de produire dans les centrales de l'électricité, toutes ces centrales qui existent sur le territoire français, dans l'Hexagone. Là, pour fonctionner, elles émettent, certes, ces centrales, elles émettent, oui, du CO2, mais beaucoup, beaucoup moins que les centrales électriques à pétrole ou au charbon, qui, elles, sont condamnées à long terme. Mais elles émettent du CO2, d'où l'idée, la volonté de certains courants écologistes, les Verts, d'arriver à terme, 2050, à une production d'électricité en France qui ne serait produite que par le vent et le soleil, si on résume. Et sur cette question, eh bien, Emmanuel Macron, il a répondu depuis la Polynésie, il a estimé à propos des éoliennes qu'il fallait opérer, je cite, avec pragmatisme et au cas par cas. Une façon, bien entendu, de dire aux populations concernées par ces parcs éoliens qu'il les avait entendus. Et il a ajouté, Emmanuel Macron, pour éviter d'abîmer nos paysages, et à propos de ces paysages, c'est une part de notre patrimoine, de notre richesse profonde, de notre identité. Normalement, d'ici 2028, le parc d'éoliennes en France, il devrait être doublé. On compte 8000 mâts aujourd'hui. Il y en a 15 000 de programmés d'ici 2028. Ces éoliennes qui fournissent entre 6 et 10% de l'énergie nationale, donc on voit que ce n'est pas encore énorme, on comprend bien qu'il en faudrait encore des milliers et des milliers pour arriver à remplacer les 70% de l'électricité provenant du nucléaire. Le jeu d'équilibriste, il est difficile pour le chef de l'État. Il aurait préféré le repousser sûrement après la présidentielle de 2022. Nous voilà à 9 mois de l'élection. Il ne veut pas se mettre, lui qui se représentera selon toute vraisemblance, Emmanuel Macron, Il ne veut pas se mettre à dos les verts et les écologistes, mais pas non plus les pragmatiques qui répètent que la France, avec ses centrales nucléaires, elle a chèrement acquis son indépendance énergétique et qu'il ne faut surtout pas tourner le dos à cette énergie-là. C'est la conviction d'Emmanuel Macron. Il s'est clairement prononcé déjà il y a quelques mois. Il l'a donc refait sans ambiguïté depuis la Polynésie française. Le nucléaire, a-t-il dit, c'est une chance. Nous sommes le pays d'Europe qui a le moins de tonnes de CO2 émises par habitant parce qu'on a le nucléaire historique. Reste, et on terminera par cela, reste une question, ce parc nucléaire dont la France est si fière, ces centrales qui sont installées sur le territoire, ces centrales sont vieillissantes, la plupart auraient déjà dû fermer, on a repoussé la date de fermeture, on a prolongé leur durée de vie, mais oui, elles vont être remplacées, elles vont devoir être remplacées dans les 20 prochaines années. Alors pour continuer à bénéficier de l'énergie nucléaire, il va falloir construire de nouvelles centrales, ces fameuses centrales EPR, nouvelle génération, plus sûres, plus respectueuses de l'environnement, mais qui coûtent des milliards et des milliards. Ces centrales, elles ne peuvent pas être construites sans qu'il y ait un consensus national, qu'elles soient tacitement acceptées par la population.
Merci Émile d'avoir décrypté l'actu pour nous en France cette semaine.
Merci, merci, à bientôt.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
On continue l'émission, cette fois avec la deuxième partie de cette interview sur les 76e anniversaire des bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki. Et je passe l'antenne à mon collègue Bertrand Tungandamé.
C'est quelque chose que j'ai lu il y a plusieurs semaines, où le président Biden disait qu'il allait promouvoir les armes nucléaires comme instrument de la paix.
Oui, bien sûr, c'est une remarque qui est souvent mise en avant, c'est-à-dire que les grands États n'ont pas fait de guerre, où il n'y a pas eu cette troisième guerre mondiale depuis 1945. Penser que la paix est due à l'existence d'armes nucléaires est une ineptie complète. Tout d'abord, ça voudrait dire qu'on évacue tous les efforts qui ont été réalisés par les organisations internationales comme l'ONU, par, si je reste au niveau de l'Union européenne, par l'Europe, par les populations aussi qui n'ont pas souhaité avoir des guerres, par les échanges commerciaux, culturels, économiques. Donc, ce serait évacuer toute cette partie-là. Et puis, c'est aussi faire fi de l'histoire au sens propre. On sait que des États qui ont eu des armes nucléaires, qui ont des armes nucléaires, ont été en guerre ou se sont fait envahir, le cas d'Israël en 1973, le cas des îles Malouines chez les Britanniques. Il y a eu des confrontations directes importantes entre la Chine et la Russie en 1969, entre l'Inde et le Pakistan encore ces dernières années, qui sont toutes des puissances nucléaires. Donc, on voit bien que l'arme nucléaire n'assure pas la sécurité des populations ou des États, mais est bien un élément d'insécurité et d'instabilité et pas un instrument de paix. Si c'était un véritable instrument de paix, alors allons jusqu'au bout, distribuons cette arme à tout le monde et n'ayons pas peur que la Corée du Nord ou que l'Iran finalement ait des armes nucléaires si c'est pour la fameuse paix. On voit bien que c'est une ineptie à nouveau, pour employer ce mot, totale. L'arme nucléaire est une arme qui vient déstabiliser la communauté internationale, qui vient renforcer la course aux armements, qui engendre des risques potentiels de destruction de notre société, de nos sociétés comme nous la connaissons aujourd'hui. Et donc, il n'est pas possible de continuer à fonder nos défenses sur ce type d'armement.
Mais c'est un désarmement qui, donc l'action citoyenne a tendance à s'effriter. Je me souviens, en grandissant, en faisant mes études à Bruxelles, et j'ai voyagé un tout petit peu en Europe pendant les années 80, il y avait régulièrement des manifestations étudiantes concernant le désarmement, il y avait des manifestations vraiment populaires qui se déroulaient un peu partout en Europe et aussi dans le monde, mais en Europe où j'étais à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a plus rien qui se passe à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscientisation des masses?
Alors, je vous dirais encore une fois que c'est pas tout à fait vrai. Certes, vous n'avez plus de grandes manifestations comme vous pouviez en trouver dans les années 60, 70, voire même début des années 80, où vous avez des centaines de milliers de personnes à travers le monde qui ont pu tenir des concerts à New York ou des grandes marches à Bruxelles ou à Paris. Vous avez raison. Mais vous avez des centaines de milliers de personnes qui font des tweets aujourd'hui. Vous avez des personnes qui, vous voyez, actuellement en France, tient pendant 4 jours différentes manifestations dans 5 ou 7 villes de France à peu près, qui vont réunir chacune 50, 100 personnes. Mais c'est une mobilisation à travers toute la France. Et vous avez ce même phénomène actuellement à travers l'Europe, où vous avez sur la plupart des bases de l'OTAN en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, des acteurs aussi de nos campagnes qui manifestent. Et vous avez la même chose en Australie aussi, où je sais qu'il y a des actions qui sont faites. Même pendant cette problématique de la pandémie, par exemple, vous avez des cours en ligne qui ont été organisés par mes collègues de ICANN Australie. Vous avez une ICANN Academy en ligne qui s'organise également à partir du mois d'octobre. Donc, la mobilisation est différente des années 70 et 80, mais elle existe. Et les gens aussi, quand ils se mobilisent finalement contre le dérèglement climatique, contre les pollutions, pour la préservation de l'environnement, au fond d'eux, finalement, il y a aussi une mobilisation sur la nécessité d'un monde sans armes nucléaires. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, on ne souhaiterait pas qu'il y ait beaucoup plus de mobilisation. Mais si je vous donne un autre exemple, vous avez plus de presque 600 villes à travers le monde, je reviens sur cet exemple, qui sont mobilisées pour soutenir le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. C'est autant de millions d'habitants. Et que ce soit Canberra, que ce soit Berlin, que ce soit Berne, que ce soit Washington. Et vous avez aussi des personnes qui font des actions contre leurs banques, par exemple, pour leur demander d'arrêter d'investir. Et là aussi, vous avez des grandes banques internationales, la banque belge KBC, des banques japonaises, des banques en Allemagne, en France aussi, qui commencent à plus ou moins se sensibiliser ou à s'inquiéter de cette démarche de personnes. Donc, il y a une mobilisation, il y a une action. Il faut qu'elle soit encore plus forte, c'est certain, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mobilisation de l'opinion publique internationale sur ce sujet.
Je peux aussi rappeler qu'à Sydney, près de là où j'habitais, dans le quartier, dans la localité de Marrickville, cette localité s'est déclarée « nuclear free city ». Et il y a des panneaux à l'entrée, à la sortie de la municipalité sur les axes principaux où il est clairement marqué « nuclear free city ». Donc, voilà, donc ça, c'est un phénomène qu'il faut soulever. Et peut-être qu'il y a d'autres villes en Australie que je n'ai pas encore vues, mais celle-là, c'est quelque chose que je connais, que j'ai vu, j'ai apprécié moi-même. Et il s'avère que les survivants des bombardements de Nagasaki et Hiroshima ont joué un très grand rôle dans ce mouvement de désarmement nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ou deux?
Oui, les survivants, vous savez, ces personnes ont été témoins de l'histoire avec un grand H. Ces personnes ont vu quelque chose et ont eu besoin à un moment donné de s'exprimer, et nous avons eu besoin aussi de les mettre en avant pour que nous puissions partager leurs témoignages à l'égal de ce que malheureusement des milliers, des centaines de milliers de personnes ont pu vivre dans les camps nazis en Europe. On a eu besoin d'entendre leurs témoignages pour comprendre cette réalité et pour qu'il y ait finalement il n'y ait un plus jamais. C'est bien cette volonté-là qu'il n'y ait un plus jamais. Et les témoignages des Ibakusha, ces hommes, ces femmes qui sont aujourd'hui très âgés, et les témoignages aussi aujourd'hui des deuxième, troisième génération, puisque vous avez des petits-enfants qui malheureusement sont aussi atteints de problématiques directement de santé directement issues de 1945, puisque à travers les gènes, parfois il peut arriver que ces maladies se transmettent, témoignent, expliquent l'horreur de cette journée et l'horreur des journées qui ont suivi. Le 6 août 1945, le 7 août, le 8 août et les mois qui ont suivi furent aussi horribles pour ces populations qui ont dû faire face à des maladies nouvelles, à des souffrances énormes, à une reconstruction, que ce soit mentale, physique, sociétale. Et donc, tous ces éléments sont extrêmement importants à partager auprès de toutes les générations pour qu'il y ait ce plus jamais. En France, par exemple, ce lundi, nous avons un événement avec une survivante d'Hiroshima organisé avec une association japonaise qui s'appelle le Peace Boat et qui va témoigner, qui va expliquer ce qui s'est déroulé. Ce sera aussi un moyen pour éduquer les populations. Donc, l'action de témoignage, l'action de transmettre ces informations est essentielle dans notre campagne et est soulignée par le traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui rend hommage à ces populations ainsi qu'à toutes les victimes des essais nucléaires, puisqu'elles aussi ont un témoignage important à délivrer pour montrer l'horreur, pour montrer la réalité des armes nucléaires.
Donc ça, c'est la Hibakusha Appeal qui aura lieu lundi prochain, lundi 9 août. Avant de nous quitter, Jean-Marie, est-ce que le LICAN a un message pour la population ou pour l'occasion de ses anniversaires, quand même assez douloureux pour l'humanité?
Le but de notre message est de mobiliser et d'engager les citoyens à demander à leur gouvernement d'adhérer au traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et cette action peut être faite, comme je l'indiquais, de façon multiple, en interpellant les maires, les parlementaires, les gouvernements, en demandant à écrire une petite tribune dans son journal local, dans son journal national, en participant à des actions d'éducation, en s'informant. L'important, donc, c'est l'information et finalement mettre en parallèle les milliards de dépenses qui sont réalisées par nos États dans cet armement nucléaire avec les faibles dépenses ou trop faibles dépenses pour protéger notre environnement, pour faire face aux pandémies et se demander finalement, est-ce que c'est encore normal en 2021 que nos États assurent la défense de populations avec une arme de destruction massive qui a pour objectif de tuer une autre population civile. Je pense que c'est la véritable question que l'on doit se poser aujourd'hui.
Jean-Marie Collin, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de faire le point sur cette commémoration, un événement qui éveille la communauté internationale à ces armes de destruction massive, les vraies, en fait, les seules, celles que l'on connaît le mieux, en fait.
Exactement.
Ok, merci, au revoir, au revoir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Et voilà, c'était Jean-Marie Collin, expert en désarmement nucléaire chez ICAN France, qui était avec notre collègue Bertrand. Et en fin d'émission, un rappel des grands titres de ce mardi. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre 356 cas locaux de Covid-19. Le recensement national de ce soir donne à 25 millions de personnes en Australie une chance de façonner leur avenir. La Therapeutic Goods Administration en Australie donne un feu vert provisoire pour l'utilisation du vaccin Moderna contre le Covid-19. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. À très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.